Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon jeudi. J'espère que ça se déroule bien de votre côté. Le week-end s'en vient, ça. Habituellement, c'est une bonne nouvelle. Marianne Paquette au micro là, pour les 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé sur CanalM. Tout à l'heure, à 16h, aura lieu du côté du Centre Avantage de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, une conférence sur la loi sur les soins de fin de vie et l'aide médicale à mourir. C'est entré en vigueur. On le sait, on en a entendu parler beaucoup dans les dernières semaines, le 10 décembre dernier. Et ça suscite beaucoup de questions, autant de la part du grand public que du personnel soignant, avec raison, hein, des questions autant d'éthique, des questions bien sûr médicales, de justice et tout ça. La conférence sera menée par la députée de Joliette, Véronique Yvon, également par Dr. David Lucier, qui est gériatre et directeur scientifique du Centre Avantage. On a la chance de discuter avec lui en deuxième partie d'émission. Il va nous aider, Dr. Lucier, à décortiquer tout ça, manquez pas ça. Et puis, comment on peut encourager son enfant à être actif, à bouger? Il y a différentes façons et on en parle souvent dans le cadre de cette émission. C'est un cadeau qui est extrêmement précieux. Bouger, les activités physiques, ça entre dans de saines habitudes de vie qu'on va être amené à cultiver tout au long de la vie. Ça aide à développer une meilleure santé globale, aussi ça aide au développement général de l'enfant, à son intégration à l'école, à ses apprentissages scolaires. Et ça, ce qui est bien, c'est que les Québécois l'ont compris. Environ 73 % d'entre nous jugent que le sport, c'est important pour que les enfants grandissent bien, se développent socialement. Mais par contre, 58 % jugent que les dépenses sont grandes. Et ça, c'est ce que révélait un sondage de la banque CIBC à l'été 2014. Et avec raison, les dépenses sont importantes pour différentes raisons. L'équipement est de plus en plus cher, les inscriptions à différentes ligues. Aussi, il faut se déplacer, hein? Le Québec, c'est grand. S'il y a des compétitions hors de notre ville, de notre région, ça aussi, ça occasionne des frais. L'Association sportive et communautaire du Centre-Sud a comme mission de faciliter l'accès à l'activité physique pour des enfants issus de familles peut-être moins en moyens. J'en parle à l'instant avec le coordonnateur, Nicolas. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Merci d'être là.
Merci de l'invitation.
D'avoir bravé l'hiver, d'avoir bravé la neige. Nicolas Magère, vous êtes coordonnateur des sports à l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud.
Oui.
Situé où exactement à Montréal?
Situé au croisement Visitation et Ontario. Au 2093, c'est juste en dessous du parc La Fontaine.
Donc, pas très loin des studios du CanalM. Nicolas, on parle de l'importance de l'activité physique pour tous aujourd'hui, mais parce que c'est important, peu importe du milieu d'où on est issu, l'activité physique. Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes que vous rencontrez bougent moins ou ont été amenés dans le passé à bouger moins parce que les moyens de leur famille n'étaient peut-être pas tout à fait au rendez-vous, les moyens financiers?
C'est sûr que l'activité physique n'est malheureusement, selon le sport, pas donnée à tout le monde. Si je prends l'exemple du hockey, un équipement de hockey va coûter excessivement cher et malheureusement, donc, les enfants qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'équiper vont passer à côté des sports comme ça. Le sport en général ou l'activité physique des milieux un petit peu défavorisés comme ça, c'est souvent et toujours, j'ai envie de dire, la même chose. On va jouer au soccer ou on va jouer à des sports qui vont être vraiment
plus accessible,
accessible. Donc la variété ne va pas être présente. Nous, ce qu'on aime et ce qu'on propose, c'est vraiment d'avoir un panel de sports vraiment varié pour pouvoir donner la chance à ces jeunes déjà de découvrir de nouveaux sports, mais aussi de pouvoir s'épanouir dans des choses qu'ils n'auraient pas eu la chance de faire sans notre aide.
Oui, parce que parfois, on aura tendance à dire « Ouais, mais pour bouger, c'est accessible, ça coûte pas cher, ça ne prend qu'une chaussure de course. Mais en même temps, si on n'a pas envie de faire de la course à pied, si on n'a pas envie de faire, bon, du soccer, mais d'explorer d'autres choses et que c'est pas accessible, ça peut nous limiter. »
Ben, j'ai envie de dire, surtout ici à Montréal, où ouais. 6 mois dans l'année, malheureusement, on ne peut pas jouer dehors, sauf si on prend des sports comme le ski ou des sports qui vont, ben, encore une fois, nous coûter très cher.
Ouais.
Donc, c'est vrai que l'idée de se dire une paire de chaussures avec un ballon de soccer, ça va complètement nous aider. Non, malheureusement, ce n'est pas la réalité.
Oui, il y a des conséquences sur la santé de ces enfants-là qui sont peut-être amenés à moins bouger dans leur enfance, adolescence.
Oui, il va y avoir des conséquences parce que le manque d'activité physique, on va compenser par du jeu vidéo, on va commencer ouais. par de la malnutrition, on va faire vraiment des choses qui vont aller à l'encontre, malheureusement, de la santé. C'est pas parce que tu ne fais pas de sport que tu vas être en mauvaise santé, on est bien d'accord, mais le fait de faire une activité va aider au développement de l'enfant.
Ouais. Il y a aussi une notion d'intégration ou un sentiment d'appartenance, dans le sens où, lorsqu'on fait partie d'une équipe ou d'une ligue sportive, ben, on a l'impression de faire partie de la gang. C'est important lorsqu'on est enfant et adolescent.
Oui, je pense que pour l'estime de soi, c'est très important de pouvoir s'identifier à une entité, de pouvoir s'identifier à ton entraîneur, à ton équipe, à tes amis avec qui tu vas jouer.
Oui.
C'est vraiment un partage que tu vas avoir avec tes amis, mais aussi tu vas découvrir de nouvelles choses grâce au sport, des choses que tu n'es pas censé ou tu ne vas pas avoir en restant... En restant tout seul, tu vas avoir vraiment beaucoup plus de relations humaines qui va t'aider. Parce que oui, le sport va aider sur le plan, on va dire, de la santé physique, mais il va beaucoup aider aussi, je trouve, et c'est ce qui est très important, sur le plan de la santé mentale, sur le développement, sur une croissance saine de l'esprit, mais aussi du corps.
Ouais. Vous parlez de modèle sain, d'identification à un coach, par exemple. C'est vrai, ouais. Je n'y avais pas pensé, c'est important. Des modèles, parfois, bon, certains enfants en ont besoin plus que d'autres. C'est une façon aussi d'avoir accès à des modèles, que ce soit masculin, féminin, positif, quand il n'y en a peut-être pas autant qu'on souhaitait dans la famille.
C'est effectivement ça, oui. Malheureusement, souvent, il y a des problèmes familiaux qu'on ne peut pas éviter, avec des enfants qui vont manquer de repères, j'ai envie de dire, et qui, grâce à leur entraîneur, vont pouvoir s'identifier et se représenter. Et moi, j'en ai l'expérience et je le vois tous les jours.
Ouais.
Pour citer mes entraîneurs et les coachs et tous les bénévoles qui font partie, par exemple, du club de hockey-ball, qui se donnent à corps et âme depuis des années, qui sont ici du centre, qui savent c'est quoi et qui ont, j'ai envie de dire, ce devoir, mais aussi cette responsabilité de montrer donc à nos jeunes qu'est-ce que c'est la vie, j'ai envie de dire.
Qui sont vos jeunes, Nicolas? C'est quoi le portrait type des familles que vous recevez à l'association?
On a vraiment tout type de familles avec tout type de jeunes. Il y a des jeunes qui vont rencontrer beaucoup plus de difficultés au niveau des familles. Il y en a qui vont avoir des familles, j'ai envie de dire, totalement normales.
Ouais, typique.
C'est exactement ça. C'est très varié. C'est très varié. Je ne peux pas vous donner une famille en particulier. On s'entend que le Centre-Sud est un quartier qui a été difficile et qui est toujours difficile, avec des familles rencontrant des problèmes, que ce soit familiaux, financiers, qui, par la suite, va influencer, bien sûr, la vie des enfants.
Mais j'imagine que le facteur commun, c'est que ce sont des familles qui sont un peu moins favorisées.
Oui, effectivement, ces familles-là sont un petit peu moins favorisées et n'ont pas les moyens d'inscrire leurs enfants dans des activités, mais grâce aux activités que le centre propose, ces familles peuvent avoir un support, peuvent vraiment laisser leur enfant et leurs enfants vont profiter de tout ça grâce aux installations, grâce à nos entraîneurs, nos bénévoles.
Oui. Vous parliez d'une offre diversifiée. Quels sont les sports que vous proposez?
On propose vraiment un gros panel de sports. Nous avons des sports de combat comme le taekwondo, le karaté. Nous avons des sports aquatiques comme la natation, le plongeon, la nage synchronisée. Nous avons du hockey-ball, nous avons du hockey-cosome. Nous avons de l'athlétisme. Okay. Nous avons vraiment beaucoup de basketball. Oui, nous ferons beaucoup, beaucoup de sports. Nous essayons de nous diversifier un maximum.
Autant pour les garçons que pour les filles. Est-ce qu'il y a des groupes réservés que filles, que garçons, où vous encouragez cette mixité-là?
Nous n'avons aucun groupe seulement de filles ou seulement de garçons. Tous nos clubs sportifs sont mixtes. On trouve que c'est important de mixer. Après, c'est sûr que si on rejoint des ligues et des fédérations, les équipes vont être partagées. Mais nous, au sein de nos clubs, il n'y a pas de différence. Et j'ai envie de dire que les filles issues du quartier sont extrêmement sportives et participent vraiment, vraiment bien à nos activités. C'est ce qui fait, je pense, aussi la force de nos clubs et de nos jeunes.
C'est une bonne nouvelle, Nicolas, hein, parce que les chiffres sont révélateurs en ce sens. Les filles, surtout à l'adolescence, bougent moins, beaucoup moins que les garçons. Ça a des impacts sur leur santé. Donc, c'est une bonne nouvelle que du côté du centre-sud, ce soit l'inverse. Peut-être grâce un peu à l'association. On peut y être à partir de quel âge?
Alors, si je prends les âges, on va dire, pour la psychomotricité, ça va être 12 mois.
Ah oui? Okay.
Donc, c'est une activité physique, c'est une activité de développement de l'enfant où, dans laquelle il va apprendre différentes façons de se déplacer, d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles sensations. Pour les clubs sportifs, les plus jeunes, c'est pour le patinage artistique dans les 2-3 ans où ils commencent à apprendre. Sinon, le reste des clubs, ça va être 6 ans. 6 ans où ils peuvent commencer.
Donc, si je comprends bien, les jeunes sont amenés à faire des compétitions en dehors du centre également.
Pas dans tous les clubs, mais dans certains clubs où la situation le permet. On va s'affilier à des fédérations pour pouvoir offrir aux jeunes la chance de compétitionner face à d'autres personnes pour voir vraiment comment ça se passe dans le monde de l'activité physique, mais du sport et de la compétition.
Oui, c'est une façon donc de les outiller pour certains d'entre eux au sport professionnel.
Sport professionnel ou disons un sport où, dans lequel on va pouvoir commencer de choses sérieuses. On a aussi notre première compétition à Montréal qui s'appelle les Jeux de Montréal, qui sont organisés par la ville. Tous nos clubs y participent. Et c'est vrai que le sentiment d'appartenance et de compétition est déjà très, très, très ancré dans nos jeunes avec cette compétition-là, qui est très bien faite d'ailleurs par la ville de Montréal.
La compétition, c'est pas pour tout le monde. Est-ce que vous accompagnez les jeunes ou parfois, si certains vous disent « c'est pas pour moi, j'apprécie pas », il y a moyen de faire autre chose?
Personne n'est obligé d'aller compétitionner. S'il ne se sent pas, c'est son choix. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. En général, les jeunes s'entraînent pour avoir une compétition par la suite, pour pouvoir prouver et montrer qu'ils sont capables,
Nicolas, qu'est-ce qu'on fait chez vous si jamais notre sport demande de l'équipement et que la famille peut-être pas les moyens d'offrir l'équipement?
Alors, chez nous, il y a plusieurs sports où nous offrons de l'équipement. Si je prends l'escrime, c'est un équipement qui va coûter excessivement cher. Et nous offrons tout l'équipement, enfin nous prêtons tout l'équipement à nos adhérents. Du casque, au fleuret, la combinaison, les vestes, tout est prêté. Pour le hockey, nous prêtons aussi pendant notre camp de jour et nos camps de relâche, l'équipement encore une fois, patins, casque compris. Nous offrons aussi à l'école Pierre Dupuis une concentration hockey tout au long de l'année où tous les jeunes sont habillés par l'association. Donc, vraiment, il est important pour nous de pouvoir offrir une activité, mais aussi de mettre nos jeunes dans les meilleures conditions, d'un point de vue de sécurité, mais aussi...
Donc, ça débute ou ça peut débuter à 12 mois. Jusqu'à quel âge?
Jusqu'à...
Ah, il n'y a pas de limite.
Comme en est possible. Il y a des cours d'adultes, bien sûr. Il y a des clubs comme, par exemple, le triathlon où je pense qu'il y a encore des personnes de 65 ans qui viennent pratiquer. On n'a vraiment pas d'âge. C'est vraiment de 0 à 77 ans, si je peux me permettre l'expression. On n'a pas de limite d'âge pour ça.
Ce qui est également agréable à savoir, c'est que l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud offre des activités à des gens qui vivent avec un handicap.
Oui, c'est vrai que nous avons une politique d'accessibilité universelle au sein de notre association. Les personnes ayant des mobilités réduites se voient offert gratuitement la salle de gym, mm-hmm. après avoir monté un dossier pour qu'on puisse les inscrire. Nous avons aussi des cours pour enfants de karaté. Mm-hmm. Le cours est le samedi de 13h à 14h avec deux entraîneurs qui permettent à des enfants ayant des troubles du comportement, des autistes, des déficiences, peu importe, de venir pratiquer le karaté avec leurs parents.
Ah ouais.
Voilà,
mm-hmm.
c'est vraiment... On pousse cet aspect-là au sport adapté car... c'est une chose qui va, j'ai envie de dire, changer et améliorer la qualité de vie de ces enfants ou de ces personnes d'un point de vue considérable. Oui. C'est très important pour nous.
Et tout ça avec des instructeurs qui sont habilités à travailler avec cette clientèle à besoins spécifiques.
Oui, effectivement.
Oui. Maintenant, pour avoir accès à vos services, on arrive chez vous, Nicolas. Est-ce qu'on doit observer le revenu familial? Est-ce qu'il y a des questions qui sont posées?
Non. Concernant mes clubs sportifs, nous travaillons avec de l'autofinancement, si vous voulez. Donc, les coûts, déjà, sont réduits énormément. Les inscriptions servent simplement à pouvoir payer nos entraîneurs. Mm-hmm. Nous ne faisons aucun profit sur ça. Si vous avez des difficultés, vous venez. Nous sommes très ouverts. On peut parler. On va trouver des solutions ensemble et pouvoir offrir les meilleurs cours, les meilleures solutions pour vos enfants et même pour vous.
Mm-hmm. Pour en savoir davantage, ascss.qc.ca pour Association sportive et communautaire Centre-Sud.
Effectivement.
En terminant, Nicolas, j'ai envie de vous demander, pour les familles qui nous écoutent, des petits trucs pour bouger, pour être actif sans que ça coûte une fortune. Parce que des fois, peut-être qu'on n'y pense pas nécessairement, mais peut-être que vous avez quelques idées.
Il y a des choses qui vont coûter absolument rien et qui vont même pas vous faire perdre de temps, mais prendre les escaliers, ouais. marcher ou prendre le bus, faire des choses qui, dans la vie de tous les jours, vous ne feriez pas par habitude,
ouais.
mais qui peuvent vraiment changer votre quotidien de tous les jours.
Ouais.
Ce sont des toutes petites choses qu'on ne pense pas, mais qui sont vraiment très, très importantes à faire.
Et il n'y a pas d'âge pour commencer.
Il n'y a aucun âge, non.
Oui.
Non, il n'y a pas d'âge. Tout le monde peut avoir accès à ça.
Oui. Et aussi, j'encouragerais les familles à peut-être se renseigner sur les activités sportives qui sont offertes au sein de l'école, parce que des fois, on n'y pense pas, mais ça peut être peut-être plus accessible de faire bouger l'enfant au sein de l'organisation scolaire que dans d'autres ligues. Donc, il faut se renseigner, regarder aussi, j'imagine, dans son quartier, toutes les offres possibles.
Oui, regarder dans son quartier, regarder son centre communautaire, regarder dans les écoles, comme vous dites. De l'activité physique, il y en a pour tout le monde. Et surtout, avec une accessibilité beaucoup plus facile qu'avant. Donc, c'est vraiment ça. Il faut vraiment faire la démarche. Et je suis sûr que vous allez trouver...
Oui, et c'est possible l'hiver quand même.
Et c'est possible effectivement.
Et vous le dites avec votre accent du Sud, donc on n'y croit pas davantage.
C'est ça.
Nicolas Magère, vous êtes coordonnateur des sports à l'Association sportive et communautaire Centre-Sud. Merci beaucoup.
Merci.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Docteur David Lucier, bonjour.
Oui, bonjour.
Pas trop nerveux pour cette conférence à 16h?
Non, ça va aller. J'ai un rôle assez mineur, disons. Madame Yvon fait la plus grosse partie de la conférence.
Oui, vous avez quand même une co-animatrice qui, on pense, pourra bien assurer cette conférence. Donc, conférence, docteur Lucier, sur la loi sur les soins de fin de vie et l'aide médicale à mourir, entrée en vigueur, je le disais en introduction, le 10 décembre dernier, qui suscite énormément de questions, autant de la part du grand public, bien sûr, et cette conférence-là, offerte du côté du Centre Avantage, pourra répondre à différentes questions, mais aussi du côté du personnel soignant. Vous avez participé à l'élaboration des procédures. Avec Mme Véronique Yvon, vous serez, je pense, bien placée pour répondre à ces questions. D'abord, Dr Lucier, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette loi-là?
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est surtout, je dirais, que la loi est beaucoup plus que l'aide médicale à mourir. Ce qu'on a entendu dans les médias, c'est beaucoup sur l'aide médicale à mourir, mais il y a plusieurs autres volets à la loi, ne serait-ce que la première partie de la loi qui dit que maintenant, tous les Québécois, tous les citoyens pourront avoir accès à des soins palliatifs. Mm-hmm. Et donc, avoir accès à des soins de fin de vie, là, peut-être de meilleure qualité. Donc, c'est ce qu'on espère. C'est vraiment le but visé par la loi, qui est la loi sur les soins de fin de vie et non la loi sur l'aide médicale à mourir. Donc, il ne faut pas oublier, je crois, cet aspect-là de la loi.
Est-ce qu'en ce moment, au Québec, tout le monde a accès à des soins de fin de vie?
Malheureusement pas. Ça dépend mm-hmm. beaucoup aussi de ce qu'on entend par soins de fin de vie, mais okay. d'avoir accès à des soins palliatifs ou des soins de fin de vie assez structurés et interdisciplinaires, donc ce qui serait l'idéal pour les gens. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'y ont pas accès parce que les services sont trop limités. Okay. Quand on y a accès, les services sont de bonne qualité la plupart du temps, mais le problème, c'est d'y avoir accès. Là, il y avait une étude canadienne qui montrait que c'était quelque chose comme seulement 60 % là, des Canadiens qui pouvaient avoir accès à des soins de fin de vie. Mm-hmm.
Donc, la loi amènera une meilleure accessibilité, si je comprends bien.
La loi vise à emmener une meilleure accessibilité, effectivement, oui.
OK. Bon, maintenant, Dr Lucier, qui pourra avoir recours à la loi, d'une part, les soins de fin de vie, on souhaite tout le monde, j'imagine. Pour l'aide médicale à mourir, ça doit être un peu différent.
Pour l'aide médicale à mourir, c'est effectivement un soin exceptionnel qui est vraiment donné en dernier recours là, si la personne ne peut pas être soulagée efficacement par les autres méthodes habituelles qu'on utilise.
Donc, comment on pourra trouver les paramètres, à savoir qui peut y avoir recours?
La loi prévoit que ceux qui peuvent recourir ou faire une demande pour l'aide médicale à mourir doivent répondre à certains critères très précis. Donc, okay. la loi encadre très bien, balise très bien l'accès à l'aide médicale à mourir. Donc, il faut premièrement être majeur. Donc, les mineurs, les enfants ne sont pas du tout admissibles. Mm-hmm. Il faut avoir une carte d'assurance maladie du Québec, ce qui veut dire qu'il faut être un résident du Québec pour éviter que des gens viennent de d'autres pays ou de d'autres provinces au Québec pour le recevoir. Il faut être en fin de vie. Maintenant, la loi ne définit pas ce que c'est la fin de vie. Donc, ça laisse le jugement au médecin là, pour évaluer si la personne est en fin de vie ou pas. Il faut avoir des souffrances intolérables qui ne sont pas soulagées par des moyens que la personne juge tolérables ou juge adéquats. C'est-à-dire que si la personne juge que ce qu'on veut utiliser pour la soulager, ça lui donne des effets secondaires trop importants, elle peut demander l'aide médicale à mourir si elle souffre. Ça peut être des souffrances physiques ou des souffrances psychiques, donc un ou l'autre. Il faut être atteint d'une maladie grave et incurable. Puis, il faut avoir un déclin là, irréversible de sa fonction. Donc, il faut vraiment être en fin de vie, puis avoir des souffrances et avoir plusieurs symptômes là, ou plusieurs indices qui montrent qu'on est en fin de vie.
Donc, en effet, vous aviez raison de dire, Dr Lucier, que ce n'est pas pour tout le monde. Hein? Il faut répondre, en effet, à plusieurs critères. J'imagine que de plus en plus, les médecins, notamment les médecins de famille, seront à même de discuter de ça avec leurs patients.
Bien, les médecins ont été formés, dans la plupart des cas, pour savoir quels sont les critères de la loi puis pour pouvoir en discuter, effectivement. Mm-hmm. Je crois que ce n'est pas nécessairement approprié que ce soit offert aux patients d'emblée là, comme une option. On attend habituellement que la personne en fasse la demande.
Mm-hmm. Est-ce que le milieu médical, le personnel soignant a des inquiétudes? Est-ce qu'il y a des questions récurrentes qui reviennent?
Je crois que c'est une inquiétude, premièrement, qui est normale parce que c'est quelque chose que personne n'a jamais fait. Donc, quand c'est quelque chose qui est nouveau, qu'on n'a jamais fait, surtout de cette importance-là ou de cette gravité-là, si on peut dire, c'est normal qu'il y ait une certaine inquiétude. Donc, c'est beaucoup ça, l'inquiétude, c'est d'avancer un territoire inconnu, autant au niveau des la façon d'aborder la question, la façon d'en discuter, parce qu'on est tous un petit peu inconfortables par rapport à la mort, et aussi avec tout le processus, et incluant même les gestes techniques là, qui doivent être posés. C'est ça qui crée beaucoup d'incertitudes, je dirais, au niveau du personnel.
Est-ce qu'on prévoit de l'encadrement, des discussions?
Effectivement, il y a déjà les professionnels du réseau ont déjà été formés à l'automne. Les formations se continuent là où c'est pas terminé. Et il y a aussi dans chaque établissement de santé un groupe interdisciplinaire de soutien à l'aide médicale à mourir. Donc, ces gens-là, qui est un groupe interdisciplinaire de plusieurs professionnels, qui sont là pour guider, pour épauler les équipes traitantes qui auraient une demande d'aide médicale à mourir pour les accompagner, si on veut, dans ce processus.
Vous dites que, c'est ce qui crée peut-être des inquiétudes ou du moins des questionnements, c'est que c'est assez nouveau. Est-ce qu'ailleurs dans le monde, il y a ce genre de loi-là?
Oui, il y a quelques endroits dans le monde où la loi existe, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse. De plus en plus d'États américains aussi qui ont une loi un peu semblable. Une différence importante avec quelques autres pays, avec les États-Unis, surtout avec les États américains qui l'offrent aux États-Unis, c'est qu'au Québec, il a été choisi par le législateur, par aussi le Collège des médecins, d'y aller avec ce qu'on appelle l'aide médicale à mourir, c'est-à-dire que c'est le médecin qui administre un médicament qui va causer la mort du patient là, pour le soulager. Alors que dans plusieurs autres juridictions, c'est ce qu'on appelle un suicide assisté, c'est-à-dire que le médecin va prescrire un médicament que le patient va aller chercher à la pharmacie et va le prendre quand il se sentira prêt à le faire. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le suicide assisté, parce que c'est vraiment la personne elle-même qui le prend. Au Québec, il a été décidé qu'on irait plus vers l'aide médicale à mourir que le suicide assisté, parce que c'est vu comme plus humain. Il y a un accompagnement qui se fait de façon plus proche quand on parle d'aide médicale à mourir que de suicide assisté, parce que dans le suicide assisté, la personne est un peu laissée seule. Avec ses médicaments, puis elle va le prendre seule. Donc, il y a été des jugés au Québec que ça, c'était pas souhaitable quand on est en fin de vie.
Donc, la discussion se poursuivra à 16h, conférence gratuite, je le rappelle, du côté du Centre Avantage de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Vous serez accompagné de la députée de Joliette, Mme Véronique Yvon. Docteur David Lucier, merci beaucoup. On n'a pas le temps de parler de la programmation 2016 du Centre Avantage, mais on glissera votre site sur le nôtre, Docteur Lucier, parce que ce que vous faites est bien inspirant et essentiel.
Merci beaucoup, Mme Paquette.
Au revoir.
Au revoir.
Jean-Sébastien de la Liberté à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. Merci d'avoir été des nôtres. Un rendez-vous bien prochainement, mais surtout l'important, c'est de bien vous porter d'ici là. Bye bye.